Et regarde bien, ça va t'amuser. Figitus, figitus, zambre capot.
Prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait taille à lutter.
Un peu de zat. De grève. Du gaz de schiste.
De gisement, de gaz de schiste.
Du logement. Toi, du féminisme. Bon bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Avec les membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé de marquer de sport en grève. On aura pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent en
et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Et voici le Canu Info du 13 novembre, un Canu Info à distance, un Canu Info minimaliste, mais un Canu Info quand même. Pour ce soir, nous écouterons au local une interview d'une professeure de l'Ain sur la mobilisation en cours dans le secteur de l'éducation nationale, un appel à rassemblement contre la loi de sécurité globale qui se tiendra mardi 17 novembre, et bien sûr le retour de la rubrique logement avec l'interview d'une personne habitant au nouveau squat de Sans Souci. Au national, nous verrons comment le nouveau projet de loi sur la recherche veut pénaliser les occupations de l'université jusqu'à 3 ans de prison quand même. Et à l'international, enfin, nous verrons comment les femmes luttent encore et toujours pour leur droit à l'IVG en Pologne. Et pour finir, un petit agenda.
reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Le préfet du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Bouillon.
Région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Petit reportage sur la grève qu'on a dit à les interjouer. Comment se passe le rassemblement pour le droit à l'IVG qui a eu lieu à l'Opéra de Lyon.
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Bonjour, je m'appelle Marie-Alix, je suis co-secrétaire départementale de la CGT Éducation de Lens et je suis professeure d'espagnol dans un lycée général et technologique et professionnel.
Il y a eu deux grèves qui ont été appelées le 4 novembre et le 10 novembre par plusieurs syndicats de l'enseignement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les raisons et les revendications de ces journées de grève ?
Effectivement, du coup, il y a eu ces deux journées de grève, le 4 et le 10 novembre. Donc le 10 novembre, c'était mardi dernier et le 4, c'était la semaine dernière. La première motivation, c'était pour ce qui concerne l'hommage à Samuel Paty, notre collègue qui a été assassiné pendant les vacances. Il y a eu pas mal de consignes contradictoires qui ont été lancées de la part du ministère pour l'organisation de la journée d'hommage qui devait avoir lieu le lundi de la rentrée. Initialement, on devait se réunir entre collègues et on devait discuter de la forme qu'on pouvait adopter pour cet hommage, de la façon dont on allait surtout l'aborder auprès des élèves et puis discuter entre nous de ce que ça nous faisait aussi parce que en fait... c'est quelque chose de terrible. Alors, finalement, c'est terrible, mais assez habitué aux morts de l'éducation nationale. L'année dernière, il y a eu par exemple celle de Christine Renon, qui est une collègue du primaire qui était directrice d'école et qui s'est suicidée en laissant une lettre qui accusait de façon très explicite l'institution. Et cette mort, elle a déjà causé un grand traumatisme dans toute la profession, dans toutes nos professions d'ailleurs, parce qu'on est plusieurs professions au sein de l'éducation nationale. Et on est aussi habitué au burn-out, aux dépressions, etc., qui commencent à s'accumuler de plus en plus dans l'éducation en raison du durcissement des conditions de travail. Comme pour la mort de Christine Renon, comme pour les autres collègues qui se suicident ou voilà qui ont des vies tragiques et qu'on est aux premières loges pour observer. On a l'impression d'avoir reçu surtout du mépris de l'institution et notamment du ministre de l'Éducation avec le fait qu'on nous sucre le temps de concertation qui était prévu au départ pour discuter entre nous et puis que finalement l'hommage se résume à une minute de silence avec des élèves rassemblés dans la cour pour ceux qui n'avaient pas cours ou dans les classes pour ceux qui avaient cours, mais une minute de silence qui n'a pas été précédée d'un dialogue avec les élèves de façon à s'assurer ne serait-ce que du fait qu'ils soient au courant de pourquoi il y avait cette minute de silence. Finalement, il n'y a rien eu avant de façon à ce qu'on puisse être sûr que les élèves savaient ce qui s'était passé en fait. La deuxième raison de faire grève, effectivement, c'était et c'est toujours effectivement le protocole sanitaire, parce qu'en fait, la situation est devenue assez grave pour suspendre les libertés individuelles de tout le pays. Mais nous, on doit continuer à travailler comme si de rien n'était et dans des conditions qui sont en fait celles d'avant, c'est-à-dire que depuis septembre, comme avant, on s'entasse comme des sardines dans des locaux qui sont trop petits, qui sont mal ventilés. On est dans le secondaire particulièrement exposé puisque sur certains gros lycées, la population qui défile toute la journée dans les gros lycées est extrêmement nombreuses. Par exemple, à Ferney-Voltaire, la Cité internationale, il y a presque 3000 personnes tous les jours si on compte les élèves et les personnels. Donc c'est quand même beaucoup de monde qui défile. Et puis bah, le seul gros changement par rapport à avant, c'est-à-dire avant la pandémie, c'est le masque. Et en fait, le masque lui-même suscite beaucoup de questions puisque la notice dit qu'il protège de pas grand-chose. Et en plus, on sort d'un scandale qui était celui des masques DIM qui nous ont été fournis par notre employeur, donc par l'Éducation nationale en septembre, et qui contenait un agent toxique. Alors, bien sûr, sous la pression des personnels, des lycéens et des lycéennes, le ministre a adapté, entre guillemets, le protocole sanitaire. Mais finalement, le seul gros changement depuis donc ce nouveau confinement, c'est que les petits de 6 ans doivent porter un masque. Sachant que les petits de 6 ans, bah, en fait, certains ne savent même pas se moucher tout seuls. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'ils puissent s'adapter à un truc qui bloque les voies respiratoires quand même? Et pour le reste, l'adaptation du protocole est laissée à la discrétion des directions et des personnels. C'est-à-dire qu'en fait, chaque établissement, chaque école fait un peu à sa sauce, ce qui implique que les personnels doivent se métamorphoser en espèce d'épidémiologiste chevronné, spécialiste de l'aménagement de locaux dans des conditions sanitaires strictes, capable de savoir ce qu'il faut faire ou pas faire pour lutter contre un virus qui, du coup, est assez dangereux pour justifier quand même un confinement national. Et puis, bah, y a certains personnels qui sont particulièrement plus exposés que d'autres, par exemple les personnels AESH, c'est-à-dire les personnels qui accompagnent les élèves en situation de handicap. Forcément, ces personnels sont plus près des élèves que les autres et certains élèves ne portent pas de masque pour des raisons de santé. Donc du coup, il n'y a même plus cette barrière-là. Il n'y a évidemment pas la barrière de la distanciation physique, mais en plus, il n'y a plus le masque. Et puis, il n'y a pas eu de recrutement de personnel, quels que soient les postes. Et du coup, pour ce qui concerne le nettoyage des locaux, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit un peu plus intense que d'habitude, mais il ne peut pas l'être tellement plus, puisque les équipes de nettoyage n'ont pas été renforcées non plus. Les personnels des collectivités qui assurent ce travail sont déjà en sous-effectif et il n'y a pas de recrutement prévu apparemment. Après, on pourrait se dire, ouais, mais c'est comme ailleurs, quoi. Évidemment, on n'est pas les seuls à travailler dans des conditions sanitaires qui sont ce qu'elles sont. On n'est pas les seuls à souffrir, en fait. Mais sauf que nous, dans l'éducation, ben, on est quasiment 13 millions de personnes. Enfin, si on additionne les personnels plus les élèves, ça fait 13 millions de personnes tous les jours. Du coup, ben, forcément, nous, on impacte tout le monde. Enfin, les problèmes de l'éducation impactent tout le monde. Et maintenant que les réanimations sont saturées, notamment dans le département d'Ain, eh ben, Monsieur Blanquer, en fait, continue à faire l'autruche puisqu'il laisse les personnels qui sont livrés, il laisse les personnels livrés à eux-mêmes. Bon, on est un peu habitué, hein, mais du coup, quand même, vu le contexte, on aurait aimé un peu plus de cadrage, en leur faisant du coup porter une responsabilité qui est terrible.
Ils ont moins peur d'épidémie que de perdre toutes leurs actions. Nos vies pèsent moins que l'économie.
Et on pourrait dire, oui, mais bon, est-ce qu'on peut faire autrement? Bien sûr que si on peut faire autrement, c'est pas très compliqué. On pourrait, si on voulait, limiter l'impact du secteur éducatif sur la situation sanitaire globale. Nous, ce qu'on demande, c'est de diviser par deux les effectifs des classes, en mettant en place l'alternance des groupes via un cadrage national, donc que ce soit pas les établissements qui fassent un peu et les écoles qui fassent leur sauce chacun dans leur coin, et sans cumul distanciel présentiel pour les enseignants. Et pour ça, bah, c'est pas très compliqué. En fait, il nous faut un plan massif de recrutement, ce qu'on demande depuis l'année dernière, et puis des recrutements de personnel de tous les métiers, des personnels enseignants, des personnels d'éducation en général, des personnels des collectivités, c'est-à-dire les personnels qui assurent l'entretien des locaux. Et ça commence par l'ouverture généralisée des listes complémentaires, par l'admission de l'ensemble des admissibles au concours interne, par le réemploi de tous les non-titulaires, etc. En fait, il y a plein de solutions qui existent et qu'on demande, nous, depuis au moins le mois de mai dernier. Voilà. Et puis, il nous faut aussi des locaux. mais ça, des locaux, ça se réquisitionne pour permettre à tous les élèves d'être accueillis et encadrés quand ils et elles ne sont pas en cours. Voilà. Et puis enfin, oui, bien sûr, c'est aussi des masques qui soient réellement protecteurs, c'est-à-dire des équipements de protection, quoi. Pas des machins en tissu faits par monsieur ou madame, enfin surtout par madame en général d'ailleurs, ou les trucs sans certification CE, sans rien du tout, et c'est-à-dire sans aucun organisme indépendant à peu près de contrôle qui va s'assurer que le masque remplit des critères d'efficacité préalablement définis, ou au moins qu'il soit inoffensif pour les personnes qui vont les porter.
Quand ils voudront nous faire payer au nom du fric du capital, on fera grève illimitée, c'est la révolte qui sera virale.
Il y a une troisième raison qui, je pense, est quelque chose qui tient beaucoup à cœur aux militants et aux militantes dont je fais partie. C'est pour les libertés individuelles, parce que beaucoup d'entre nous, on a vécu extrêmement mal le confinement, le premier confinement, et avec ces restrictions de manifester, de circuler, de s'exprimer aussi. Et du coup, bah, nous, il y a aussi ce truc où tant qu'il reste une once de liberté individuelle dans ce pays, on en profite. C'est-à-dire que tant que les manifs sont pas encore interdites, on fait une manif.
Donc, à Bourg-en-Bresse, il y a eu justement un rassemblement le 4 novembre et une manifestation le 10 novembre.
Oui, alors, donc effectivement, il y a eu deux occupations de l'espace public. Le rassemblement du 4 novembre, on n'était pas très nombreux. La manif de mardi, on était plus nombreux, on était contents et contentes, hein, puisqu'on était environ 150, je dirais, personnes. Ce qui, pour une manif que de l'éduc, en fait, est bien, à Bourg-en-Bresse. Nous, on ne lâchera pas. Enfin, on est dans un contexte où on ne peut pas faire autrement que de continuer à protester et de continuer à faire remonter les problèmes qu'on peut rencontrer, qui, en fait, du coup, voilà, comme j'ai dit, nous impactent nous, mais nous impactent aussi, en fait, tout le monde, du fait qu'on soit si nombreux dans l'éducation et que, du coup, on diffuse allègrement, en fait, le virus contre lequel le confinement est supposé lutter et contre lequel il y a cette suspension de liberté individuelle pour tout un pays entier.
La semaine dernière, dans le Canu Info du vendredi, on vous a parlé de cette nouvelle loi de sécurité globale qui va permettre à la police de faire encore plus son travail de répression en toute impunité. Un appel dans différentes villes a été donc lancé pour que des rassemblements se fassent à 18h le mardi 17 novembre devant les préfectures, devant l'Assemblée nationale et compagnie. À Lyon, ça se passera donc mardi à 18h devant la préfecture du Rhône à l'appel de plusieurs collectifs et organisations contre du coup ces dernières mesures liberticides. Donc je vais vous lire l'appel. Nous, militants, militantes de plusieurs collectifs, appelons à se rassembler devant la préfecture du Rhône contre la loi sécurité globale, débattue à partir du 17 novembre à l'Assemblée nationale. Face à cette loi liberticide limitant le droit de filmer les forces de l'ordre et renforçant les outils technologiques de surveillance, notamment lors de manifestations, remettant gravement en cause la liberté d'informer nos libertés fondamentales, ouvrant la porte à toutes les dérives et par son arsenal juridique, il est urgent de réagir. Cette loi ne ferait qu'aggraver la répression inouïe que subissent déjà depuis plusieurs années de nombreux secteurs de la société. Avec cette loi, aurait-on seulement eu connaissance de l'affaire Benalla ? Il est urgent de réagir pour ne pas que les violences policières soient passées sous silence, pour conserver des contre-pouvoirs citoyens nécessaires en démocratie et dans un état respectueux du droit international. En complémentarité avec toutes les initiatives déjà existantes, tribunes, pétitions, campagnes vidéo, campagnes téléphoniques auprès des députés, etc., nous invitons la population et tous les collectifs, toutes les organisations et personnalités publiques à s'emparer de cet appel et à le relayer, pour que ce rassemblement déclaré et pacifique soit à la hauteur du non général face à la suppression progressive de nos libertés. Donc voilà, je rappelle, ce sera mardi à 18h devant la préfecture du Rhône. Rue du Noir, arrêt Saxe Préfecture, arrêt même du métro, comment il s'appellerait, Place Guichard, voilà. C'est assez facile à trouver, et puis dans l'ensemble, si vous baladez dans la ville et vous trouvez un endroit dans le 3ème où il y a plein de flics, et bah ça doit être par là. Voilà, ciao ciao à mardi.
Ça paraît tellement évident, mais c'est pas une réponse structurelle, donc je suis pas extrêmement favorable.
On n'a jamais vu la réquisition être la réponse à la question du manque de logement, vous le savez très bien. C'est-à-dire qu'on raisonne hiver après hiver sur les bâtiments publics qui pourront être réquisitionnés.
C'est pas en cachant la misère sous le tapis que n'est-ce pas ?
Écoutez, moi j'ai été ministre du logement.
Chez moi, il n'y a que des bredignots au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends ?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
En Europe, la question, c'est de trouver des structures et des solutions qui soient un peu pérennes dans le temps.
Ensemble, nous avons à détruire la misère et agresse la planète entière.
Bon, je me présente, Cissé Moruno. Je vis à Sanssouci au nouveau squat. Et ça fait 2 semaines que le squat est ouvert. On est au nombre de 20aines et pour l'instant, tu vois. Mais normalement, quand tout est fini, tous les travaux sont finis, et puis voilà, on va être au nombre de 30aines. Bon, avant le reconfinement, tu vois, nous, on était à la rue, tu vois. On a cherché des solutions partout sur Lyon et puis on a eu des expulsions et on a fait des gardes à vue pour ça. Et puis à la fin, on a trouvé ici. Bon, pour l'instant, on n'est pas prêt pour sortir immédiatement. Il faut qu'on trouve des solutions efficaces et puis voilà, après, on verra. Ouais, au niveau du travail aussi, ben, tous les jours, on essaie de faire petit à petit, un peu, et puis voilà. Okay. Ça finit dans ces 2 semaines. Bon, l'usage maintenant, c'est le courant et le chauffage et l'eau. Mais l'eau, quand même, ils ont déjà arrangé ça, mais il reste le courant, pas le courant qu'on a, c'est moins faible et puis ça peut pas prendre tous les chauffages et puis avec des chambres. Et puis on est au nombre de 20aines qui dorment pour l'instant. Bon, si on a pu trouver qu'on appelle les filles pour le courant et puis qu'ils puissent rajouter encore un peu. Et puis là, ça nous ferait un peu plaisir, tu vois. Bon, depuis que c'est ouvert, on s'organise entre nous. Chacun essaie de voir ce qu'il ramène comme la bouffe ou un peu de sous, et puis on cotise et puis on fait des repas ensemble et puis voilà, on mange ensemble aussi et puis voilà, c'est bon. Depuis que c'est ouvert, je me plains pas du tout. Toujours je suis avec mes amis qui habitent avec moi ici dans le bâtiment et ça se passe bien entre nous. Et bon, on essaye de finir les travaux pour s'organiser bien et puis voilà. On verra comment on va s'organiser quand même, avec des soutiens, avec tout le monde. Bon, pour l'instant, on a acquis quelques soutiens, mais il y a d'autres qui ont dit après le confinement, et puis ils vont voir s'ils peuvent venir faire des ateliers pour nous, et puis voilà, et puis s'organiser bien pour toutes les choses qui se passent dans la maison. Quoi. Oui, c'est un bâtiment de la mairie, et puis la mairie nous dit il veut prendre la maison. Immédiatement, tu vois, pour qu'on libère la maison, nous on dit, mais monsieur, on n'a pas de solution d'abord, et puis on est en hiver, et ça fait longtemps qu'on est à la rue, et tu vois, on a été un peu partout, dans les squats différents, sur Lyon, et puis on n'a pas trouvé des solutions efficaces, tu vois.
Thank you.
qui nous a convoqués dès la première semaine, tu vois, de l'ouverture. Et puis, on est parti voir la mairie, on a discuté. Mais en fait, on ne s'est pas tombé d'accord réellement sur un truc qui va occuper. On ne s'est pas tombé d'accord, tu vois. Je peux dire comme ça. Après, et puis voilà, on est revenu, on s'est vu avec des potes. Bon, pour nous, bon, c'est pour rester d'abord. Et puis, on ne sait pas, bon, la mairie, ce qu'ils nous proposent. Et puis, ben, quand on était à la rue, et puis, tu vois, ben, ils n'ont pas pensé à nous. Ben, c'est quand c'est ouvert, et puis voilà, il vient, et puis il nous dit, bon, on vous propose ça et ça, bon. Alors qu'il ne sait pas si ça peut marcher comme ça. Non, ils nous ont proposé des trucs, tu vois, ils nous ont proposé des solutions, mais nous, ça ne nous arrange pas. Et puis voilà, ben, on s'est vu entre amis, et avec des soutiens, ils ont dit non. Ben, ce que la mairie nous propose, nous, pour l'instant, il y a des familles d'abord, et puis voilà. Si ça le va, de prendre charge de la famille, après, ils peuvent venir nous aussi, nous prendre charge. Et il veut récupérer le bâtiment, mais il veut nous trouver des solutions pour des logements. Et puis on lui a dit, mais c'est pas pour trouver la solution de logement pour une semaine ou deux semaines, non. Nous, on veut des logements où on peut vivre et puis avoir des formations ou faire des formations et payer nos loyers. Et puis voilà. Okay. Parce qu'il y a plein parmi nous, ils sont dans les procédures, il y en a qui ne sont pas dans les procédures. Et voilà, ben, on essaye de voir les choses, si ça peut s'arranger avec les assistants sociaux ou trouver un logement avec une formation et puis être accompagné par des assistants ou par des soutiens, tu vois, administratifs ou peut-être être accompagné par, je sais pas comment dire, par des bénévoles aussi, tu vois. Ouais, on est en relation avec, peut-être tu peux dire, avec toutes les squats qui sont à la ville, que ce soit Maria ou CG ou Calure ou 40, ben, on est tous liés, tu vois, ben, on a un même objectif. Parce qu'on était tous à la rue et puis voilà, comme on n'avait pas de solution de logement, c'est pour ça qu'on a squatté des bâtiments. Bon, pour l'instant, on avait dit qu'on va essayer de créer une mail et pour les soutiens qui veut venir nous rencontrer ou bien qui veut venir nous passer un coup de main, mais comme on ne sait pas bien s'installer, et puis c'est pour cela, tu vois. On finit les travaux d'abord, après on va s'organiser pour tout ça, pour les mails, pour des soutiens, pour des bénévoles et puis pour tout l'ensemble, quoi. Bah, on est là pour l'instant, on essaye de finir les travaux et puis bien s'organiser, et après on verra, on va inviter plein de gens et pour venir voir le bâtiment, comment ça se passe. Et on a plein de choses quand même à faire, comme des activités, et puis comme être accompagné, ou peut-être faire des formations, ou faire des bénévoles, tout ça, quoi. On aime bien ça, on aime bien que ça passe plein d'activités ici, comme dans les autres squats, comme au CG, là-bas, il y a plein d'activités qui se passent, et puis comme l'atelier Canula qu'on fait, comme la récup, et comme il y a plein de trucs, tu vois. Ouais, j'aimerais bien faire la formation, peut-être le camtar, où je vais au bâtiment, où je passe mon permis, où y a plein de choses à faire, tu vois.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Révolution ! Révolution ! Révolution ! Révolution !
Révolution ! Révolution ! Révolution !
pas le gros pavé et leur balancer.
En plein confinement, le projet de loi de programmation de la recherche est en train d'être discuté à l'Assemblée et au Sénat. Donc déjà pour commencer, ce projet de loi avait suscité de nombreuses polémiques depuis son dépôt en juillet 2020. En effet, lors de son passage au Sénat, il avait rajouté un amendement subordonnant les libertés académiques aux valeurs de la République. Ceci en pleine histoire de Samuel Paty et surtout du discours de Blanquer qui accusait les universités d'être remplies d'islamo-gauchistes. Cet amendement a été bien heureusement supprimé. Mais, d'un autre côté, le contenu de la loi s'est aggravé. Il y a ainsi l'amendement 147 qui est ici lui aussi du Sénat qui a été conservé. Et il introduit un nouvel article dans le code pénal qui concerne exclusivement l'enseignement supérieur.
Article 431-22-1 du code pénal, le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but d'entraver la tenue d'un débat organisé dans les locaux de celui-ci, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
La commission paritaire rajoute ensuite.
Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur sans y être habilité ou y avoir été autorisé, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est un délit. Les peines pour les délits ciblés pouvant alors aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende si ces derniers sont commis en réunion.
En clair, ce sont les occupations d'université qui sont particulièrement visées. Celles-ci sont pourtant dans le répertoire d'action du mouvement étudiant depuis 1946. Si les gouvernements qui se succèdent ont pour habitude de réprimer avec force les mouvements étudiants, cette nouvelle disposition légale entend donc les criminaliser une bonne fois pour toutes, pour qu'ils ne puissent plus s'opposer à l'augmentation générale des frais d'inscription, à la sélection des bacheliers et des bachelières, à la privatisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, qu'ils ne puissent plus aussi jouer un rôle d'acteur politique aux côtés des opprimés et du monde du travail, comme ils l'ont fait tant de fois dans l'histoire auparavant des luttes.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde, on évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste.
Les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
La Pologne est donc à nouveau, on se rappelle des manifestations de 2016 ou 2018, et bien la Pologne est à nouveau le théâtre de manifestations de masse pour le droit à l'avortement. Pourquoi ? Et bien parce que le 22 octobre dernier, le tribunal constitutionnel polonais a rendu un arrêt interdisant l'avortement dans le cas d'une malformation grave et réversible du fœtus ou d'une maladie incurable ou potentiellement mortelle. Le droit à l'avortement en Pologne est déjà très restreint. Seulement 4 cas permettent une interruption volontaire de grossesse. Les cas de viol, d'inceste, de menaces pour la santé et la vie de la mère, et jusqu'au 22 octobre, les cas de malformation du fœtus, qui jusqu'ici représentaient 98% des IVG légales recensées en Pologne. L'interdiction de l'IVG en cas de malformation du fœtus revient donc à interdire l'IVG dans ce pays. La contestation ne s'est pas fait attendre. Dès le 22 octobre, des militantes pro-IVG bravaient les mesures de confinement sanitaire pour dénoncer cette interdiction. Elles se retrouvaient face à des militants catholiques et réactionnaires qui, au contraire, revendiquaient revendiquait comme une victoire cette interdiction de l'IVG. Le gouvernement de droite, du coup du parti Droit et Justice, qui est au pouvoir depuis 5 ans, ainsi que l'épiscopat de Pologne, avaient exprimé leur satisfaction suite à cette interdiction. Le 23 octobre au soir, dans les principales villes du pays, des dizaines de milliers de manifestants et manifestantes battaient le pavé. Face au mépris et à la non-prise en compte de leurs contestations, le mouvement s'est amplifié de jour en jour. Ainsi, c'est le dimanche 25 octobre que, pendant la messe, des manifestants et des manifestantes envahissent les églises, comme à Poznan, scandant contre les curés et les religieux « Nous en avons assez ». À Varsovie, à l'extérieur d'une célèbre église du centre, la police a attaqué un rassemblement spontané de manifestantes qui brandissaient des pancartes indiquant en religion anti-avortement « Cassez-vous » et « J'aimerais avorter de mon gouvernement. Des graffitis ont été tracés sur les murs des églises dans plusieurs villes du pays où on pouvait lire « L'enfer des femmes ». Les églises ainsi que les locaux du parti au pouvoir ont été pris pour cible, des bâtiments ont été vandalisés, des messes interrompues, des tentatives de manifester devant la maison du président qui a été protégée par des centaines de policiers. Le mouvement s'est accru pour atteindre vendredi 30 octobre une immense manifestation dans la capitale réunissant plus de 80 000 personnes. Cette contestation voit la mobilisation de nombreuses femmes, mais s'appuie aussi sur des appels à la grève dans les entreprises et sur des revendications plus larges, notamment sur les droits des personnes homosexuelles et trans, également stigmatisées dans ce pays où la religion catholique exerce une grande influence, en étroite collaboration surtout avec le gouvernement bourgeois. Le 3 novembre, le chef du gouvernement est contraint de suspendre temporairement la décision du tribunal constitutionnel. Cependant, cette suspension n'est que temporaire et depuis, les manifestations continuent chaque soir pour obtenir son annulation pure et simple. On leur souhaite bonne chance et on espère que, comme en 2016-2018, elles obtiendront gain de cause.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, un russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et oui, l'agenda, l'agenda, l'agenda. Je ne vous le cache pas, l'agenda n'est pas ultra fourni. Ultra fourni cette semaine, mais il y a quand même quelques petits rendez-vous. Il y a d'abord les collectes solidaires à la Plume Noire qui se tiennent du coup samedi après-midi et mercredi après-midi de 14h à 19h. Donc la Plume Noire met à disposition son local pour les collectes de denrées alimentaires et de produits de première nécessité deux fois par semaine. Du coup, vous pouvez vous rendre à la Plume Noire, c'est juste à côté de la place Colbert et vous pouvez aller amener, bah, si vous avez un petit peu voilà, des denrées alimentaires ou des produits de première nécessité. Je crois qu'ils demandent un peu genre des masques, du gel, mais aussi bah, du coup de la bouffe, quoi. Et samedi soir, sur Radio Canu, vous pourrez réécouter une émission formidable qui avait été réalisée pendant le premier confinement en soutien aux travailleurs et travailleuses du sexe qui sont particulièrement touchés par l'épidémie de coronavirus et donc les mesures de reconfinement. En effet, comme au printemps, l'épidémie de coronavirus et les mesures de confinement impactent d'autant plus fortement les personnes déjà précarisées. Dans ce contexte, la situation des travailleurs et travailleuses du sexe est particulièrement difficile et notre solidarité s'avère indispensable. Caviria relance donc son appel à soutien. L'argent récolté sera redistribué aux personnes qui n'ont accès à aucune aide sociale en raison de leur situation administrative ou des mesures de confinement. Et donc, samedi de 20h à 21h, vous pourrez réécouter l'émission réalisée en lien avec Caviria. Et si jamais vous avez envie de faire un don à Caviria, enfin surtout en venue aux personnes que Caviria accompagne, et bah c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site de Caviria. Caviria, ça s'écrit C-A-B-I-R-I-A. Et sinon, vous allez sur rebellion.info et vous retrouverez tous les liens. Et bien sûr, pour finir dans l'agenda, il y a la manifestation, le rassemblement de mardi 17 novembre à 18h contre la loi de sécurité globale.
Et tout de suite, c'est Noise Pollution, l'émission la plus ragamuffin de Radio Canut.